Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 9Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans 38, rue de Londres, Philip Sands propose une enquête historique et juridique consacrée aux limites de la justice internationale face aux crimes de masse. Le point de départ est l'arrestation de Augusto Pinochet à Londres en octobre 1998 à la suite de demandes espagnoles visant son extradition. Le récit suit aussi Walter Rauf, ancien officier SS impliqué dans la mise au point et le déploiement de camions à gaz, qui trouva refuge au Chili après la guerre. Sands met en relation les itinéraires de ces deux hommes avec les réseaux militaires, policiers et politiques qui ont permis leur protection. Le titre renvoie à une adresse de Santiago associée à la répression conduite sous la dictature chilienne. Ni roman ni simple traité, le livre combine chroniques judiciaires, enquêtes documentaires et essais sur immunité, extradition et responsabilité pénale. Son objectif central est de montrer comment le droit a pu ouvrir des voies inédites contre impunité, sans garantir pour autant que les responsables répondent effectivement de leurs crimes. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, arrestation de Pinochet à Londres comme rupture juridique internationale. Le livre accorde une place centrale à l'arrestation de Augusto Pinochet dans une clinique londonienne le 16 octobre 1998. Cet événement ne constitue pas seulement un épisode spectaculaire de politique internationale, il pose la question de savoir si un ancien chef de État peut invoquer son statut pour échapper à des poursuites liées à la torture et aux disparitions forcées. Les procédures engagées au Royaume-Uni, dans le cadre de la demande espagnole, deviennent ainsi un terrain où se confrontent deux conceptions du pouvoir. Selon la première, les actes commis par un dirigeant relèvent durablement de la souveraineté nationale. Selon la seconde, certains crimes sont si graves que leurs auteurs ne peuvent être entièrement protégés par leur ancienne fonction. Sands examine les étapes, les recours et les enjeux diplomatiques de cette affaire sur une longue durée. Il fait ressortir que le droit international avance moins par proclamation générale que par décision concrète, souvent fragile et contestée. La fin de la procédure ne fournit pas une victoire judiciaire simple, puisque Pinochet ne fut pas jugé en Espagne. Pourtant, le précédent modifie les termes du débat immunité ne peut plus être regardé comme un bouclier automatique lorsque sont en cause des crimes internationaux graves. Deuxièmement, Walter Rauf et les refuges sud-américains des criminels nazis, le second axe de enquête concerne Walter Rauf, ancien officier SS associé aux camions à gaz employés dans la politique nazie de meurtre de masse. Après 1945, Rauf vécut au Chili, où il échappa aux tentatives visant son renvoi vers Europe. Sand ne présente pas ce parcours comme une anomalie isolée, mais comme un révélateur des obstacles pratiques et politiques qui ont suivi la guerre. Les demandes de poursuite ou extradition peuvent dépendre de preuves disponibles, de décisions gouvernementales, de relations diplomatiques et de protection locale. Le cas Rauf expose donc une forme de continuité entre crimes historiques et impunité contemporaine. Une personne impliquée dans un système exterminateur peut vivre librement durant des décennies faute de coopération judiciaire effective. Le livre replace ce destin dans une histoire plus large, des filières de fuite, des chasseurs de criminels nazis et des efforts tardifs de justice. Il insiste surtout sur le rôle du Chili et sur les proximités qui relient Rauf à certains milieux du régime militaire. Cette enquête donne un contenu humain et institutionnel à une notion souvent abstraite. Impunité, elle désigne non seulement absence de condamnation, mais aussi la possibilité de mener une vie protégée après des crimes immenses. Troisièmement, les liens entre répression chilienne, police secrète et héritage nazi. En croisant les trajectoires de Pinochet et de Rauf, Sands analyse les relations entre la dictature chilienne, ses appareils de sécurité et un ancien cadre nazi installé dans le pays. Le sujet exige de distinguer les faits établis des simplifications séduisantes. Il ne consiste pas à réduire la dictature chilienne à une reproduction du nazisme, ni à expliquer toute sa violence par une influence extérieure. Le livre montre plutôt comment des savoirs, des individus, des réseaux et des méthodes de répression peuvent circuler entre contextes historiques distincts. La rue de Londres à Santiago, liée à un centre clandestin de détention et de torture de la police secrète chilienne, incarne cette dimension institutionnelle de la terreur. Elle rappelle que les violations ne furent pas seulement des excès individuels, mais furent organisées par des structures administratives et sécuritaires. La présence de Rauf dans ce paysage soulève alors une question précise: comment un État autoritaire peut-il trouver utile, tolérer ou protéger un homme recherché pour ses crimes passés? Sands relie cette interrogation à la nécessité de documenter les complicités, sans lesquelles les responsables les plus connus ne pourraient ni agir ni se soustraire durablement à la justice. Quatrièmement, extradition. Immunité et compétence universelle face aux crimes de masse. Le livre éclaire plusieurs mécanismes juridiques qui déterminent si un responsable peut être poursuivi hors de son pays. Extradition désigne la remise d'une personne par un État à un autre afin de permettre un procès. immunité vise, dans certaines circonstances, à protéger les représentants de l'État contre la juridiction étrangère. La compétence universelle permet quant à elle de penser que certains crimes, notamment la torture et les crimes contre l'humanité, concernent la communauté internationale entière. Sand montre que ces principes ne fonctionnent jamais de manière automatique. Ils exigent une qualification précise des faits, une base légale, une juridiction compétente, ainsi que des décisions gouvernementales et judiciaires, parfois divergentes. Dans le dossier Pinochet, le débat porte notamment sur la possibilité de séparer les fonctions légitimes de l'État des actes criminels qui ne sauraient être couverts par elles. Cette distinction est décisive, car elle limite la tentation de confondre raison de l'État et permission de torturer. Le livre évite ainsi une vision héroïque ou purement technique du droit. Les règles juridiques peuvent créer des ouvertures importantes, mais elles restent tributaires de procédures longues et de rapports de force. Leur valeur réside aussi dans les normes nouvelles qu'elles imposent au débat public. En dernier lieu, une enquête narrative sur les écarts entre avancées du droit et justice obtenues, La force particulière de 38, rue de Londres, tient à son double registre. Philip Sands est juriste international, mais il choisit une forme accessible de récit-enquête, proche par moments du thriller judiciaire. Cette construction permet de suivre les effets concrets de décisions qui pourraient autrement paraître très abstraites, un mandat, une audience. Une demande de extradition ou une expertise médicale peuvent modifier le destin de victimes et de responsables. Le croisement des temporalités entre Europe de l'après-guerre. Dictature chilienne et procédure londonienne de 1998 soulignent aussi que la justice internationale travaille souvent avec retard. Les victimes cherchent reconnaissance et responsabilité alors que les suspects vieillissent, que les preuves se dispersent et que les États hésitent. Cette tension explique le caractère profondément ambivalent du livre. Les deux figures centrales meurent sans avoir connu une condamnation pénale définitive pour les crimes au centre de l'enquête. Toutefois, Sands ne réduit pas le bilan à cet échec. La procédure contre Pinochet a contribué à rendre plus contestable la protection des anciens dirigeants accusés de crimes graves. Le récit invite donc à mesurer simultanément les limites du droit et sa capacité à transformer les conditions dans lesquelles impunité est discutée, documentée et combattue. En conclusion, 38 rue de Londres intéressera en premier lieu les lecteurs de histoire contemporaine, de droit international et de politique latino-américaine. Il convient aussi aux personnes qui cherchent à comprendre, au moyen d'un cas précis, comment une arrestation, une demande de extradition et un débat sur immunité peuvent modifier les normes applicables aux anciens dirigeants. Les étudiants en droit y trouveront une entrée concrète dans les questions de compétences, de responsabilité et de coopération entre États, sans que le livre se réduise à un manuel. Les lecteurs de récits documentaires apprécieront la manière dont Sands associe archives, procédures et trajectoires individuelles. Son apport principal est de tenir ensemble deux histoires généralement étudiées séparément, la poursuite tardive des criminels nazis et les efforts visant à juger les responsables de la dictature chilienne. Cette mise en relation évite une lecture nationale ou purement chronologique des crimes de masse. Par comparaison avec de nombreux essais juridiques, le livre se distingue par une attention soutenue aux conséquences humaines et politiques des mécanismes de droit. Par comparaison avec une enquête historique classique, il éclaire avec précision les enjeux procéduraux sans prétendre que le droit résout tout. Il offre ainsi une réflexion rigoureuse sur le contraste entre progrès normatif et absence de condamnation, ainsi que sur la persistance des réseaux de protection qui rendent impunité possible. Si vous souhaitez soutenir Philip Sands, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.